Patricia Martin, justement, votre mot de la semaine, vous avez le micro, gardez-le. Opération Barkhane en deux mots ce matin. Vous en parlez avec Ava Djamchidi, l'envoyé spécial au Mali, au Niger et au Burkina Faso pour Le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, Ava Djamchidi, bonjour.
Bonjour.
Pour qu'on comprenne bien, en fait, vous, vous y étiez juste avant la collision des deux hélicoptères militaires français.
Oui, tout à fait. J'étais dans une zone qui s'appelle le Liptako-Gourma, donc aux confins du Mali, du Niger et au nord du Burkina Faso, où j'ai accompagné effectivement des soldats en opération pendant à peu près 9 jours.
Du 16e bataillon de chasseurs à pied,
oui.
Dans une traque, une sorte de traque.
Oui, tout à fait. En fait, le but de la mission pour eux était de partir donc de Gao et de rallier cette zone pour montrer donc qu'ils occupent le terrain en compagnie des forces burkinabées et maliennes, et puis d'essayer de neutraliser des djihadistes, de trouver des caches d'armes, de trouver de l'explosif ou encore de l'armement, enfin toutes ces choses qui permettent de mener des attaques, hein, puisque dans cette région, les djihadistes sont particulièrement nuisible. Juste pour vous donner une petite idée des attaques qu'ils arrivent à commettre, depuis le début du mois de septembre, ils ont tué 170 soldats maliens et burkinabés. Mmh.
Quand on parle de sanctuaire djihadiste, on se rend pas forcément compte que le Sahel, c'est grand comme l'Europe, hein.
Oui, le Sahel, c'est grand comme l'Union européenne. Juste pour avoir une autre petite idée, un point de comparaison, les États-Unis, quand ils se déploient en Afghanistan, il y a 100 000 hommes pour un territoire qui est 5 fois plus petit. Donc c'est vraiment une goutte d'eau, si j'ose dire, dans un pays qui est en plus très compliqué. Le terrain est particulièrement hostile. C'est un endroit où il fait très très chaud. L'endroit dans lequel on se trouvait avec eux, eh bien il y a des sables mouvants aussi juste après la saison des pluies. Donc c'est très compliqué d'avancer là-bas puisque les blindés s'enlisent sur la route. Il y a beaucoup de scorpions, il y a beaucoup de serpents. Enfin c'est vraiment un endroit où progresser en véhicule est extrêmement compliqué.
Et progresser sur, évidemment, des centaines et des centaines de kilomètres.
Oui, tout à fait.
Bien, d'accord. À un moment donné, il y a eu un bivouac, un soir.
Oui, tout à fait.
Une arrivée de djihadistes.
Ouais, en fait, on se trouvait dans une forêt qui est l'un de leurs un sanctuaire des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, on est dans une forêt. En fait, pour passer la nuit, eh bien, les blindés se positionnent en carré défensif, c'est-à-dire qu'ils se collent un peu les uns aux autres. Et on a entendu au poste radio que, eh bien, il y avait 2 pick-up, puis 10 pick-up, puis 30 pick-up. Donc, les militaires avec lesquels je me trouvais ont commencé à organiser cette riposte, donc à tirer contre les djihadistes. Ça a duré très longtemps, hein, puisque les premiers coups de feu sont partis vers 19h40 et que cette offensive a été stoppée vers 5h du matin. Et c'est vrai que pendant cette nuit, qui était un peu inquiétante, puisque
les tirs ont duré toute la nuit.
Les tirs durent toute la nuit. Et puis, vous savez qu'eux sont à domicile, ils ont la maîtrise du terrain et les règles d'engagement français sont extrêmement compliqués et obéissent à tout un rituel d'ordre et de demande d'autorisation pour pouvoir faire feu. Et c'est vrai qu'à un moment on a senti que comme ils étaient tellement nombreux, et bien le capitaine qui commandait ce bivouac tactique a pris l'initiative et bien d'appeler à la rescousse l'aviation de chasse. Donc c'est vrai qu'on a senti une forme de soulagement de la part des soldats quand 2 hélicoptères, il s'agissait de Gazelle ce soir-là, sont arrivés, ont finalement réussi à repousser cette offensive des djihadistes dans leur sanctuaire.
Quand plus tard, donc quelques jours plus tard, il y a eu cette collision de 2 hélicoptères, Florence Parly elle-même, le ministre des Armées, a dit que c'était une nuit noir, mais vraiment noir. Vous, quand vous y étiez, il y avait la lune.
Oui, il y avait la lune, et c'est vrai que c'est un détail que j'ai peut-être pas bien saisi quand j'y étais, mais souvent le soir, les soldats cherchaient la lune dans le ciel. Enfin, ils regardaient beaucoup le ciel, alors moi je pensais naïvement qu'ils cherchaient les étoiles filantes, jusqu'à ce que l'on m'explique que la lune pouvait tout changer sur le terrain, puisqu'elle permet d'obtenir de meilleures conditions de visibilité. Tout simplement, ça veut dire que ça les aide, même s'ils ont des optiques de vision nocturne, eh bien, à ajuster leur tir pour pouvoir mieux cibler l'ennemi. Et c'est vrai que cela peut changer les choses, puisque la nuit en question, la nuit du lundi soir où les 2 hélicoptères sont entrés en collision, eh bien c'était une nuit de niveau 5 où la lune était absente et où ces hélicoptères volaient à très très basse altitude. Ça soulève en général énormément de sable et des petits bouts de branchages séchés. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose.
Qu'est-ce que ça vous a appris, en fait, cette semaine?
Je pense que quand on partage comme ça le quotidien de ces soldats, on prend peut-être mieux conscience de termes que l'on a beaucoup l'habitude d'entendre, comme les grandes élongations dont parle souvent la ministre des Armées ou le chef d'état-major. C'est vrai que là, de passer 18 heures dans des véhicules, dans des conditions extrêmement dures, où il fait très chaud, eh bien, on réalise l'ampleur de la tâche. Et puis, l'autre chose, enfin deux autres choses, si vous le permettez, que j'ai pu mesurer vraiment, c'est tout d'abord le fait que les armées partenaires, l'armée malienne comme l'armée burkinabé, manquent vraiment de moyens. Quand les soldats français arrivent pour mener une opération conjointe avec eux, ils demandent de l'armement, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'eau, des choses qui peuvent paraître très simples, mais qui sont essentielles sur le terrain. Enfin, un dernier point qui était peut-être le plus déroutant pour l'observatrice que j'étais sur place, eh bien, c'est le fait que lorsque les agents du renseignement français repèrent des endroits où se trouvent des djihadistes, eh bien, il ne suffit pas d'arriver pour les arrêter. Même quand vous arrivez dans un hameau où il y a des habitants qui vivent là et quelques étrangers que ces mêmes habitants ne connaissent pas, qu'ils portent ce qui semble être l'uniforme qui indique leur signe d'appartenance à des groupes de combattants djihadistes, eh bien, si les soldats n'ont pas de preuves, à savoir par exemple des armes
d'ailleurs,
ou
vous
de
avez
l'explosif,
vu des hommes arrêtés tout à fait, qui ont été ensuite relâchés.
Et exactement, ils les relâchent et c'est vrai qu'on mesure aussi le caractère asymétrique de cette guerre dans laquelle tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes et l'état de droit qui s'applique aussi en territoire ennemi dans une situation de guerre peut compliquer les choses sur le terrain.
Eh bien, merci Avad Jamshidi d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Je rappelle que vous étiez l'envoyé spécial au Mali, au Niger, au Burkina Faso pour Le Parisien aujourd'hui en France. Merci et bonne journée.